Marie Laroche-Manceau, escrimeuse des salles d'escrime Tourangelle, club d'escrime de Tours, est sélectionnée au championnat du monde de Fleury qui se tiendront à Bahreïn les 19 et 20 novembre 2025. C'est une occasion rêvée de monter dans le tram direction le quartier Sanitas, descendre à l'arrêt Palais des Sports, se rendre dans le Palais des Sports, chercher la salle d'escrime afin de rencontrer Marie-Laure Laroche-Manceau, Laureline Sanson, trésorière de l'association, Camille Rocheteau, maître d'armes, qui entraîne la championne. Comment vont-elles nous raconter ce sport? Comment vont-elles nous parler de leur pratique de l'escrime? Qu'apprendra-t-on de la réalité des salles d'armes tourangelles? Loin des images, des films de cap et d'épée, encore que, je vous propose de découvrir ce sport à travers les témoignages de trois membres des salles d'armes tourangelles, un maître d'armes, une championne, une escrimeuse loisir.
Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi.
Donc sur le sol, on voit diverses marques. Il y a des scotchs jaunes, des scotchs blancs. Il y a tout un tas de matériel autour de nous pour pratiquer l'escrime. Est-ce que vous voudriez nous décrire un peu l'endroit où on est?
Alors ici, on est dans la salle d'armes de la ville de Tours, donc qui est située au centre municipal des sports.
Camille Rocheteau, maître d'armes.
Dans cette salle d'armes, on a en effet des marquages jaunes qui correspondent au terrain. Donc un terrain d'escrime, c'est un long couloir. Nous, on a 9 terrains jaunes, donc ça s'appelle une piste d'escrime, qui font 10 mètres de long. Ça, c'est pour les enfants. Et dans le sens de la longueur, on a des pistes blanches qui font 14 mètres. Et ça, c'est pour les ados adultes.
Et donc là, tout autour de nous, sur les murs, il y a plein de matériel. Donc on voit, bon, allez, pour dire vulgairement les choses, des épées. Et puis des masques ou des casques. Voilà. Et on voit des tenues blanches un peu plus loin. Est-ce que vous voulez nous expliquer à quoi servent toutes ces choses?
Alors, en effet, on a des épées. Et on a aussi des fleurets. Donc à l'escrime, il y a 3 armes, le fleuret, le sabre et l'épée. Mais au club de Tours, qui s'appelle les salles d'armes Tourangelles, on pratique l'épée et le fleuret. Donc on a uniquement des fleurets et des épées. On a des masques d'escrime, en effet, ce sont des masques. Donc on a des masques pour les armes en métal. Et on a des masques aussi en plastique pour les enfants et les écoles qui font avec des armes en plastique. Les fleurets sont des armes avec une. On touche avec la pointe, comme à l'épée. L'arme au fleuret, la coquille, qui est la partie qui protège la main, est un petit peu plus petite qu'à l'épée. À l'épée, c'est beaucoup plus gros, ça recouvre la main. Pour la simple et bonne raison qu'à l'épée, on peut toucher sur tout le corps, des pieds jusqu'à la tête, et que l'unique protection, finalement, c'est la coquille. Au fleuret, c'est un autre jeu, et du coup, la coquille est plus petite. Une autre différence, c'est que la lame à l'épée, elle est triangulaire, alors qu'au fleuret, elle est carrée.
Bonjour, je suis Laureline Sanson, je suis la trésorière du club des salles d'armes Tourangelles et je suis également adhérente au club et je pratique l'épée depuis quelques années maintenant.
Peut-être quelques mots pour présenter la salle d'armes Tourangelles.
Alors, les salles d'armes Tourangelles existent depuis 2008. En fait, c'est la fusion de deux clubs, l'escrime club de Tours, qui était ici au palais, au centre municipal des sports, et l'escrime club du Beffroi. Et donc, ils ont fusionné pour créer les salles d'armes Tourangelles en 2008. L'année dernière, en fin de saison, nous comptions 222 adhérents. Pour cette saison, on est actuellement à un peu plus de 160 adhérents. Les effectifs ne sont pas encore consolidés, puisqu'on a toujours des adhésions en cours d'année.
On propose 2 séances d'essai gratuites pour que les gens, s'ils n'ont jamais pratiqué, ils puissent venir essayer et découvrir la pratique avant de confirmer ou non leur inscription. Et les inscriptions en cours d'année sont tout à fait possibles.
Voilà. Vous avez aussi un prêt de matériel, ce qui est important puisque c'est un matériel assez coûteux.
Alors oui, tout à fait. Les licenciés qui pratiquent ont entre 5 et 99 ans. Les cours sont faits en fonction des catégories d'âge. Voilà, il y a par exemple le premier groupe entre 5, 6, 7 ans, l'éveil escrime le mercredi matin pour découvrir la pratique. Et ensuite, par catégorie d'âge, on propose plusieurs créneaux tout au fil de la semaine. Et effectivement, pour débuter cette pratique, il faut un matériel spécifique et le coût de cette tenue étant onéreux, on propose aux adhérents la location de la tenue et du masque pour toute l'année, ce qui permet de découvrir la pratique et de voir si ça leur plaît. Et au fur et à mesure, ensuite, les adhérents peuvent s'équiper progressivement pour étaler un peu les dépenses au fur et à mesure de leurs années de pratique. Alors au sein du club, on compte 3 salariés, 2 enseignants à temps plein, dont fait partie Camille Rocheteau, mais également Stanislas Lebouvier, qui n'est pas présent ce soir parce que c'est son jour de congé. Et on a également Pascal Hébert, qui est en CDI à temps partiel et qui s'occupe de la réparation du matériel des armes du club, mais aussi du matériel des adhérents, hein, parce que voilà, c'est un matériel sur lequel il peut y avoir des pannes ou des casses de lames. Voilà.
C'est-à-dire qu'il répare lui-même ou qu'il envoie en réparation ?
Il répare. On a un atelier à l'étage et donc il les répare lui-même. Voilà, il change les pièces qu'il a changées et il vérifie le bon fonctionnement des armes.
Et vous pratiquez quelles armes ?
Alors moi je suis fleurettiste à la base, mais j'enseigne aussi bien le fleuret, l'épée et le sabre aussi.
Camille Rocheteau, maître d'armes.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a, comment dire, on peut aisément passer d'une arme à l'autre. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une préférée quand même ?
C'est changeant chez moi. C'est pas toujours la même arme que je préfère. J'aime les trois. Vraiment, j'aime les trois. Elles sont différentes, toutes les trois. Mais j'aime vraiment les trois. Quand on est tireur, on est spécialisé dans une arme. Quand on est enseignant, on enseigne dans les deux, trois armes. Ou une arme, ça dépend de la structure dans laquelle on évolue. Mais quand on est tireur, on est spécialisé dans une arme, sauf les tireurs handisport qui sont en fauteuil. Les paralympiques, qui eux, sont spécialisés dans deux armes. Oh, bah, je suis devenue enseignante par la suite de ma carrière d'escrimeuse, parce que c'est tout, c'est mon sport. Je fais ça depuis que j'ai 5 ans, donc c'était la suite logique, que j'aime transmettre ce que je sais faire. Et donc, je me suis formée aux autres armes, à l'épée et au sabre, mais je me suis formée aussi à l'enseignement du fleuret, parce que passer de tireur à enseignant, c'est totalement différent.
Est-ce que vous repérez chez des élèves, disons, des profils qui sont plus pour telle arme ou telle autre ?
Oui, c'est vrai qu'il y a selon les personnalités, le gabarit aussi, ils vont plus être orientés. On va leur proposer une arme plus qu'une autre, mais bon, après, c'est vraiment nous, on laisse le choix à l'élève. Ce sera toujours lui qui décidera de l'arme qu'il veut faire, même si moi je le vois dans une autre arme. Si lui veut faire une arme, et ben c'est lui qui choisit.
Bon, même si les gens peuvent choisir, qu'est-ce qui vous fait dire, bah tiens, cette personne-là, elle serait peut-être plus dans telle arme ou telle autre ? C'est quoi vos critères, disons, ce qui vous fait penser ça ?
Ah, c'est un tout. Ça va être. Le physique de la personne, s'il est plutôt très très grand, je vais plutôt lui proposer l'épée, par exemple, alors de façon assez caricaturale, hein, mais voilà. Selon la réflexion, s'il est plus stratégique, s'il est plus à l'instinct, je vais lui proposer plus une arme qu'une autre. Ça va dépendre comment je sens l'élève. C'est vraiment très individualisé, en fait. Il n'y a pas de profil type. Je sais pas, je vais le sentir. Mais c'est toujours la décision de l'élève.
Et vous parlez aussi du coup de stratégie et d'instinct. Est-ce que c'est peut-être ça, disons, qui fait le cœur de l'escrime ? On pourrait penser à la rapidité aussi. Mais...
Oui, la rapidité, la coordination, beaucoup hein, dans l'escrime. Oui, c'est un sport assez complet là-dessus. On va utiliser tout, ses jambes, son bras, sa tête, son mental, tout. Comme beaucoup d'autres sports, mais celui-là, c'est le meilleur. Donc.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la danse sur l'idée de, on a quand même une posture à tenir, une façon d'avancer, de marcher en tout cas, des postures de bras aussi.
Alors le parallèle avec la danse, ce serait plus sur l'ancrage, je dirais. Il faut être ancré énormément à l'escrime et sur la flexion, sur la souplesse. Ces choses-là.
Et alors là, justement, on voit Marie Laroche-Manceau qui est en train de s'entraîner devant nous. Donc vous participez à son entraînement, puisqu'elle va participer au championnat du monde de fleuret. Peut-être qu'il serait bon de rappeler à nos auditeurs comment sont constituées ces catégories d'âge en escrime.
Alors, Marie, elle va participer au championnat du monde dans la catégorie vétéran. Vétéran à l'escrime, c'est à partir de 39 ans. Et à partir de donc 39 ans, on est vétéran 1. Et tous les 10 ans, après, ce sera vétéran 2, vétéran 3 et vétéran 4. Ça va jusqu'à vétéran 4. Et donc, Marie, elle a participé à différents circuits nationaux, puis au championnat de France, également à différents circuits européens, qui lui ont permis de se classer deuxième française et qui lui ont permis de gagner sa sélection pour les championnats du monde.
Mais c'est quoi? C'est un système de points? Enfin, comment ça marche?
Oui, tout à fait. C'est un système de points selon les performances qu'on fait à chaque compétition. On gagne des points selon le classement, en fait. Mieux on est classé, évidemment, plus on remonte dans le classement national, européen, il y a différents classements. Et là, ce qui est pris en compte, c'est le classement national. Donc Marie, elle a gagné sa sélection grâce au classement national. Donc différents circuits nationaux, championnat de France, mais également, ils ont regardé les circuits européens.
Comment on fait pour gagner un match d'escrime avec cette arme-là?
Alors là, Marie, elle fait du fleuret. Au fleuret, on touche exclusivement avec la pointe et on ne peut toucher que le buste. Donc pas la tête, pas les bras, pas les jambes. Et pour gagner le point, il faut avoir l'avantage, ce qu'on appelle, nous, à l'escrime, la priorité. La priorité, elle est toujours donnée à l'attaquant. Et si on est attaqué, on doit d'abord se défendre avant d'aller toucher l'adversaire.
Alors si on s'approche de ce planning-là, pour voir ce qui s'y passe, donc vous nous expliquez, il y a des catégories d'âge, il y a différentes armes, et là on voit aussi, par exemple, il y a l'escrime adapté. Donc je vois un créneau ici le mardi, je crois qu'il y en a un autre à Loche. Est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Alors le groupe d'escrime adapté du mardi midi, enfin de 11h à midi et demi, il est réservé à deux catégories, les personnes de plus de 65 ans, donc c'est l'escrime pour les seniors, et pour les femmes qui ont un cancer du sein. Mais en fait, depuis quelque temps, ce créneau, il est ouvert plus largement à toute personne qui recherche une pratique de l'escrime adaptée, une pratique du sport adaptée. Voilà, donc c'est vraiment pour les adultes, puisque c'est le midi, mais voilà, pour les personnes qui ne pourraient pas faire de l'escrime dans un cours classique. Et du coup, ils pratiquent selon les personnes du fleuret ou du sabre, pour le coup. C'est la pratique, notamment dans le cancer du sein, on pratique le sabre, puisque ça permet de travailler la rééducation du sein qui a été opéré. Et voilà, c'est pour ces personnes-là. Et à Loche, en effet, puisqu'on a une structure à Loche le vendredi soir, là, c'est pour les enfants. Donc on est en association en partenariat avec l'association Enfantissage, qui est une association qui vient en aide aux enfants en difficulté scolaire. Donc ça peut être harcèlement, troubles 10, TDAH. Et là, c'est un créneau où je prends maximum 5 enfants et où on va adapter la pratique à chaque enfant.
C'est vous qui êtes en charge de ces cours-là?
Pour l'escrime senior et cancer du sein, l'escrime adapté le midi, on est tous les deux avec mon collègue, Stanislas et moi, on s'en occupe tous les deux. Et pour le groupe Enfantissage à Loche, oui, c'est moi qui suis en charge, qui l'ai créé avec la présidente de l'association Enfantissage, Françoise Nègre. On l'a créé ensemble et c'est moi qui le fais tous les vendredis.
Là, ça veut dire que sur tous les cours qui existent dans ce planning, il y a des cours donc de loisirs, des cours pour les compétiteurs et des cours qui ont un autre objectif sur l'escrime adapté. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez imaginé quand vous avez commencé ce sport? Ça veut dire que ça pouvait être autant de choses?
Alors, quand j'ai commencé le sport, non, pas du tout. Quand j'ai commencé l'enseignement, oui, tout de suite. Je me suis rendu compte que l'escrime était, comme plein d'autres sports, ça pouvait être un médiateur thérapeutique, peu importe pour quelle personne, pathologie, handicap, mais ça pouvait permettre plein de choses en tout cas et qu'on n'y pensait pas forcément. Donc oui, dès que j'ai commencé à enseigner, oui, j'y ai pensé. On a des groupes adaptés, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans tous nos groupes, on dit que bon, c'est le mot à la mode, mais ce sont des groupes inclusifs. Et donc, voilà, là, on a un groupe adapté, mais on a des enfants qui ont des troubles de l'attention dans tous les groupes. Voilà, c'est pas fermé. On a des personnes porteuses de trisomie 21 dans nos groupes aussi, d'autisme, qui sont intégrées au groupe. Voilà.
Je crois que vous faites aussi de l'escrime artistique. Sur le site, on voit, par exemple, une vidéo « Butin et trahison ». Qu'est-ce que c'est ?
Butin et Trahison, c'était le spectacle de l'année dernière du groupe d'escrime artistique. Donc c'est un groupe qui chaque année crée un spectacle pour la fête du club ou autre si on a des prestations extérieures. Et donc l'année dernière, c'était en effet Butin et Trahison puisqu'ils avaient volé un butin mais qu'ils se disputaient leur gain. Et cette année, le groupe d'escrime artistique a grossi. L'année dernière, ils étaient 4, cette année, ils sont 6. Et ils préparent un spectacle qui va être relativement drôle encore cette année. Et on a également un groupe de sabre laser, donc, qui sont deux disciplines différentes. Mais c'est du sabre laser, deux spectacles aussi, qui vont nous préparer, je pense, aussi une belle performance.
Allez, par curiosité, pourquoi vous avez choisi, l'épée ?
Parce que pour un adulte, en général, c'est ce qu'on conseille.
Laureline Sinson, trésorière.
Après, on propose aussi d'essayer les deux armes. Et moi, c'est plus l'épée qui m'a attiré plus de réflexe, enfin de stratégie. Et aussi parce que du coup, on peut toucher qu'avec la pointe. Et du coup, on fleuret aussi. Du coup, à l'épée, on touche avec la pointe, mais surtout le corps. Contrairement au fleuret, où on touche avec la pointe, mais uniquement sur le buste. Et du coup, voilà, j'ai été plus attirée par la pratique de cette arme. Et je fais également partie du groupe d'escrime artistique.
Il me semble que je vous ai vu sur les vidéos sur le site.
C'est ça, effectivement. C'était moi.
Et alors là, ce choix-là, pourquoi vous aviez envie d'essayer cette autre forme d'escrime ?
Il y a plus de créativité et plus de liberté. On se crée un scénario, en fait. Du coup, on est libre dans l'histoire qu'on veut raconter, dans les costumes, et du coup, dans une mise en scène. Donc ça, et dans nos déplacements, parce que dans la pratique sportive, que ce soit n'importe quelle arme, on est limité aux limites de la piste. Si on sort, on a... le match s'arrête, il y a un décompte de points, enfin voilà. Quand on a l'escrime artistique, on peut se mouvoir différemment. Alors après, il y a toujours des passes d'armes respectées, des attaques, des parades, qui restent assez codifiées. Mais c'est une autre forme d'expression de l'escrime. Et du coup, ça permet de mêler les deux et de trouver du bénéfice dans chaque pratique.
Il y a une question qui fâche, est-ce que la SAT fonctionne avec des subventions ou est-ce que vous vivez uniquement des adhésions des pratiquants, disons ?
Alors, effectivement, on a une part de nos recettes qui permettent de financer les achats de matériel et le salaire des enseignants qui proviennent des subventions des différentes collectivités, en premier lieu de la ville de Tours, du département d'Indre-et-Loire, de la région Centre-Val de Loire et également de l'État via l'ANS.
J'ose cette question parce que les associations montent au créneau en ce moment, dont Radio Campus Tours, pour signifier l'utilité sociale du monde associatif, dont fait partie aussi la SAT. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous, ça vous préoccupe ?
Oui, tout à fait. En termes de budget prévisionnel, ce qu'on prévoit dans notre budget pour pouvoir fonctionner et être à l'équilibre, effectivement, les subventions représentent à peu près un tiers de nos ressources. Et donc, s'il y a une baisse substantielle des dotations, ça nous inquiète. Enfin, en tout cas, la conjoncture actuelle, avec tout ce qu'on peut entendre d'un point de vue budgétaire à tous les niveaux, étatique, régional, départemental et municipal, effectivement, ça pose préoccupation. Voilà. Mais on peut également compter sur nos partenaires privés, et notamment le Crédit Mutuel, notre banque depuis une dizaine d'années maintenant, qui est toujours à notre écoute et qui nous soutient depuis de nombreuses années. Voilà. Et également Monsieur Plessis, qui est avocat, qui a maintenant 3 enfants qui sont adhérents au club et qui s'est mis lui aussi à l'escrime et qui est un partenaire privé qui soutient financièrement le club. Voilà, de par ses adhésions, mais aussi c'est un de nos sponsors.
Donc c'est plus vers ça que vous allez vous tourner ?
Il faut que nous diversifions nos ressources afin de compenser une éventuelle baisse des dotations publiques. Effectivement, il faut qu'on anticipe ces choses-là.
Et donc la suppression du Pack Sport, est-ce que ça a un impact aussi sur la vie de votre association ?
Oui, tout à fait. On constate cette année, après la restriction des critères d'attribution, notamment en termes d'âge, que nous avons moins de pratiquants sur la catégorie des 8-12 ans. Puisque maintenant c'est à partir de 14 ans le passeport et effectivement on a moins d'adhérents qui se présentent avec un passeport. On compte cette année une dizaine d'adhérents qui présentent un passeport alors que l'année dernière on était plutôt près de 40 ou 50. Voilà.
C'est-à-dire que les gens font un choix, du coup pas de passeport, pas de sport.
Effectivement, on peut se demander si les gens face à cette aide qui disparaît pour certains bénéficiaires font un choix. Parce que c'est vrai que le sport est un coût financier, certain, et du coup ces aides pouvaient permettre aux familles de s'autoriser une activité sportive pour leur enfant. Et peut-être que là, effectivement, c'est un choix financier qu'ils font de passe-passe-sport, pas de sport.
Allez, un peu de vocabulaire. Attaque, parade, riposte.
Alors l'attaque, c'est lorsqu'on va aller vers l'avant pour marquer le point, pour aller jusqu'à la touche. Donc c'est ce qui nous donne l'avantage en premier. La parade, c'est quand on va arrêter l'attaque de l'adversaire avec son arme. Donc on va bloquer son attaque avec son arme. Et la riposte, c'est la touche qui suit la parade. Donc dès qu'on s'est défendu, on va toucher. C'est ce qu'on appelle la riposte.
À toutes les époques, les hommes ont dû fuir devant des accusations calomnieuses pour tenir leur serment et éviter le pire. Heureusement, à toutes les époques, les hommes ont surgi pour venger les victimes, confondre les corrupteurs, châtier les coupables et les assassins. La race des D'Artagnan, des Don Quichotte et des Robin des Bois, Lagardère est toujours présent pour combattre l'injustice et défendre les opprimés. Quelles que soient les menaces et les perfidies, l'épée de Lagardère défendra toujours la bonne cause.
Quels sont vos premiers souvenirs sur la piste ? Parce que je crois que vous avez commencé l'escrime très jeune.
J'ai commencé effectivement l'escrime très très jeune. Je devais avoir 7 ans.
Marie-Laure Laroche-Manceau.
Je me souviens de ma première compétition, c'était dans un grand gymnase. Et il y avait des petits bancs pour enfants, pour séparer les pistes. C'est mon premier souvenir de compétition.
Donc première compétition à 7 ans, et je crois qu'après vous avez continué aller peut-être jusqu'à votre entrée dans les études supérieures.
C'est ça.
Voilà, donc est-ce que vous voulez nous raconter qu'est-ce que ça vous apportait à cette époque-là, ce sport-là
C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. Je me souviens justement quand j'étais adolescente. Mais ça vous apporte une certaine, c'est ça, un cadre et après que vous pouvez appliquer aussi, enfin qui s'applique automatiquement, j'ai envie de dire, dans votre vie de tous les jours. Et aujourd'hui dans le travail, je pense que tout ce que j'ai acquis pendant que j'ai fait de l'escrime en tant que jeune fleurettiste, aujourd'hui je m'en sers de mon travail de tous les jours, ne serait-ce que pour canaliser, gérer le stress déjà, essayer de canaliser son impatience et pas s'arrêter au premier échec.
La persévérance, et alors sur l'idée aussi d'anticipation, de stratégie, voilà, parce que c'est souvent les qualités qui sont mises en avant pour ce sport-là. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il faut faire preuve de stratégie, il faut analyser son adversaire. Il ne faut pas y aller tête bestée, parce qu'en général, ça ne fonctionne pas toujours. Enfin, rarement même. Donc.
C'est quoi, vous, disons, votre parade préférée ? Est-ce que vous avez des trucs ?
Mon point fort, c'est la parade riposte. Voilà. La défense.
Est-ce que vous voulez raconter pour nos auditeurs en quoi ça consiste ? C'est comment ces mouvements ? Parce qu'ils n'ont peut-être jamais vu d'escrime de leur vie.
Quand vous avez l'adversaire qui vous attaque, donc vous avez l'arme qui arrive sur vous. Donc l'action de la parade, c'est j'écarte en fait la lame de l'adversaire pour pouvoir ensuite aller toucher.
En quelques millièmes de seconde.
Oui. tout à fait, être le plus rapide possible.
Donc vous avez arrêté votre pratique de l'escrime pendant 20 ans, je crois. Vous êtes revenu sur la piste en 2020, et là, vous avez...
21.
Ah. Est-ce qu'on peut dire que le corps a une mémoire, puisque vous êtes revenu au top assez vite?
Alors, le corps a une certaine mémoire, mais dans la limite du raisonnable quand on a passé 40 ans. Mon corps m'a très rapidement dit « Cocotte, t'as plus 25 ans, hein ?» Mais sinon, les automatismes restent.
Et alors, comment on adapte son entraînement pour atteindre quand même un aussi haut niveau voilà, pour une compétition internationale? Comment ça se passe, les temps d'entraînement? Est-ce qu'il y a aussi à prendre en compte des temps de préparation physique, des temps, je sais pas, de repos, d'alimentation, quelque chose de particulier?
Il y a de la préparation physique. J'ai la chance aussi d'avoir des maîtres d'armes qui sont disponibles et qui sont là pour me donner la leçon. J'ai cette chance-là.
Est-ce que vous avez un emploi du temps particulier là, sur vos séances d'entraînement avant la compétition qui arrive quand même très vite?
Oui, c'était très, comment dire, rythmé. Donc j'ai les cours collectifs avec tout le monde. Donc le mardi, jeudi, vendredi. Non, mardi, mercredi, vendredi. Et j'ai une leçon individuelle une fois par semaine, le mercredi. Et j'essaye d'aller courir aussi.
Allez, une dernière question, parce que je ne voudrais pas trop vous gêner pendant votre entraînement. Donc vous avez aussi participé à des compétitions en équipe. Donc là, vous serez seul sur la piste, je crois, à Bahreïn. Pour vous, c'est quoi quelle différence vous faites entre ces deux façons de pratiquer l'escrime, seul sur la piste ou en équipe? C'est quoi les particularités de chaque?
Je ne sais pas.
Parce qu'il y en a un que vous préférez ou un qui vous semble plus difficile?
Sur l'individuel, vous ne pouvez pas compter sur les autres, quoi. Pour vous dire, bon, j'ai raté mon match, celle d'après va peut-être réussir à récupérer, mais là, l'individuel, c'est uniquement pour soi qu'on tire.
Qu'en pense Camille Rocheteau?
Sur ce pourquoi est fait Marie ou sur en général?
Eh ben, peut-être vous, quelle particularité vous voyez entre être seul sur la piste face à un adversaire ou jouer en équipe, et puis sur ce qui vous semble peut-être correspondre plus à la championne que vous entraînez?
L'escrime, c'est quand même à la base un sport individuel, c'est sa performance, mais c'est sa défaite aussi. On gagne, voilà, on gagne seul, on perd aussi seul. À l'inverse de l'équipe, où en effet, c'est toute l'équipe qui gagne, toute l'équipe qui perd. Donc ça dépend vraiment des profils. Il y en a pour qui le côté individuel ne va pas être galvanisant et justement l'équipe va permettre de performer. Et d'autres où le côté équipe va les tétaniser presque, parce que c'est difficile de se dire qu'on ne fait pas gagner l'équipe, ou même si c'est pas vrai. Mais... Et donc, si je réfléchis à Marie, de façon sûre et certaine, Marie est faite pour l'individuel. Parce que quand bien même elle ferait bien les choses, elle trouverait toujours que ce serait de sa faute s'il y avait une défaite. J'ai raison? Oui, j'ai raison. Voilà. J'ai bien résumé.
Allez, sur la préparation mentale alors d'une sportive comme Marie, qu'est-ce que vous diriez en fait? Qu'est-ce qui est important? Parce que tout à l'heure, en rigolant, vous disiez « Ah bah j'ai 40 ans, machin et tout ». Du coup, qu'est-ce que vous diriez sur l'idée de préparation mentale, physique?
Je crois pas qu'il y ait vraiment de différence d'âge là, que... qu'on ait 20 ans ou 40 ans, pour performer, il faut faut s'entraîner, bien évidemment, à la salle en escrime, mais en dehors aussi, comme disait Marie, elle va courir, tout ça. C'est important de le faire en dehors, sinon il ne peut pas y avoir de performance. Seul l'entraînement ne suffirait pas. Mais ça, qu'on ait 20 ans ou 40 ans, c'est la même chose. Et de la même manière, le mental, eh ben, c'est pas inné, ça s'acquiert. Et il n'y a pas d'âge pour travailler son mental, et l'escrime comme plein d'autres sports, mais l'escrime est quand même un sport très mental et on est obligé de le travailler. On va faire des retours de compétition, on va parler des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Mais c'est obligatoire aussi d'en passer par la préparation mentale pour réussir, quel que soit l'âge.
Mais c'est quoi alors la préparation mentale ?
Ça dépend de chaque personne. Ça peut être entre nous à la salle, ça peut être avec un préparateur mental à l'extérieur, un thérapeute, peu importe, mais quelqu'un qui va préparer l'athlète, le sportif, à la performance, chose que nous, on n'a pas forcément le temps de faire, ni forcément les compétences. On a certaines compétences, mais on est aussi limité, ce n'est pas notre métier. Et c'est un tout. De toute façon, une performance d'un sportif, c'est plein de disciplines différentes.
Est-ce que vous regardez des compétitions, des vidéos, ou est-ce que vous filmez vous-même sur vos entraînements pour voir comment vous êtes dans l'espace, disons ?
Non, c'est pas quelque chose que je fais, non.
Non, on va faire un retour. La leçon individuelle permet ça, de faire un retour instantanément sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut travailler. Quand à la salle, ils font des combats, on est derrière pour dire là, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Et puis, quand on a pu accompagner Marie sur des compétitions, là, il y a un retour immédiat à chaque fois, à chaque fin de match ou à chaque pause, parce qu'à l'escrime on a le droit de parler quand il y a une pause, des pauses elles sont rapides, hein, mais on a le droit de donner des conseils et du coup là on peut aussi rectifier le tir pendant le combat.
Qu'est-ce qui va se passer allez, le 21 novembre quand vous aurez évidemment gagné cette compétition? Qu'est-ce que vous vous dites?
Je l'aurais fait. Voilà.
Et voilà, ça vous suffira ou vous leur dites j'aurais envie de refaire d'autres compétitions après?
Ça, c'est la bonne question. Je l'aurais fait et si je prends du plaisir, je pense que ça sera. Ma cocotte, t'as plus qu'à aller en piste pour faire les prochains.
Voilà, justement, je vais vous laisser vous entraîner tranquillement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci beaucoup.
Merci. C'était la meilleure question à poser.
C'est parfait.
Merci à Déborah Fourest, responsable communication des salles d'armes Tourangelle, Camille Rocheteau, maître d'armes, Laureline Sanson, trésorière, Marie Laroche Monceau, escrimeuse, sélectionnée au championnat du monde de Fleury, qui se dérouleront à Bahreïn les 19 et 20 novembre 2025. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com où vous pourrez l'écouter, bien sûr, à volonté.